La voix des municipales. Les 15 et 22 mars 2026, c'est les élections municipales à Rouen. La radio HDR reçoit les candidats à cette élection autour des thèmes du logement, de la jeunesse, des écoles, du monde associatif et de la tranquillité publique. La voix des municipales, c'est tous les jeudis à 18h jusqu'aux élections sur les ondes du mix des cultures. La voix des municipales. Nicolas Mayer-Rossignol, Parti socialiste.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission La Voix des Municipales. Ravi de vous retrouver pour votre émission de 18h à 19h. Vous connaissez le principe. Tous les jeudis, on reçoit un candidat ou une candidate pour parler de son programme, pour parler aussi de son parcours et de ses idées pour la ville de Rouen. Bonjour Naïm, tu es avec moi aussi pour cette émission.
Bonjour Inès.
Et aujourd'hui, tu reçois Nicolas Mayer-Rossignol, maire sortant et candidat pour sa réélection.
Exactement. Bonjour, monsieur Nicolas Mayer-Rossignol.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous vous recevons dans le cadre de la campagne municipale, dans le cadre de votre candidature. Petite phrase pour commencer. Comment avez-vous trouvé ces 6 dernières années en tant que maire de Rouen ?
Oh, bah, c'est un grand honneur, hein, et un vrai privilège quand même d'être engagé, d'être élu et puis de mettre en œuvre les convictions que vous défendez. En 6 ans, la ville, elle s'est énormément transformée. Vous voyez, j'avais encore hier soir une réunion avec les habitants de la Lombardie, du Châtelet, de la Grand-Mare. Et bien sûr qu'il y a toujours des difficultés. Il y en aura toujours dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça serait très, très malhonnête pour n'importe qui, d'ailleurs, de dire le contraire. Mais quand même, ce que l'on voit en 6 ans, c'est qu'il y a une transformation énorme de la ville et de l'agglomération. Et ça se voit au nombre d'habitants, il y en a beaucoup plus, ça se voit au nombre d'étudiants, il y en a beaucoup plus, ça se voit au nombre de touristes, vous le voyez dans la ville, quoi. Puis la transformation, alors les quais, évidemment, et puis plein d'autres choses dans les différents quartiers. Donc, une grande fierté aussi, parce que moi, j'adore ma ville. Si vous voulez, Rouen, c'est ma ville, c'est ma vie, quoi.
Ces dernières années, quelle est pour vous la chose la plus compliquée en tant que président de la métropole et maire de Rouen? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas annoncé, mais vous êtes aussi président de la métropole. Je m'explique dans ma question, c'est-à-dire que vous êtes arrivé dans une période où il y avait le Covid, on a eu Lubrizol, il y a peut-être eu des choses, en fait, dire compliquées à gérer quand on arrive à faire ce mandat-là.
Non, vous avez complètement raison. Ça a été un mandat avec beaucoup de crises. Bah, déjà, on a commencé, on venait d'avoir l'incendie de Lubrizol. C'était en septembre 2019, on était élu en mars et juin 2020. Bon, inutile de vous dire que c'est pas super en termes d'attractivité pour le territoire, parce que quand vous tapiez Rouen à l'époque dans les moteurs de recherche sur Internet, vous aviez une belle image avec un énorme nuage noir. Super, ça donne vachement envie. Non, c'était vraiment catastrophique. Bon, ensuite, en même temps, pandémie. Bon, confinement, déconfinement, reconfinement. Enfin bon, on a dû trouver des masques. À l'époque, je suis allé chercher des masques qui venaient de je sais pas où. On a coordonné un réseau de couturiers et de couturières, véridique, pour fabriquer des masques. Enfin, je sais pas si vous réalisez, c'était dingue. On a créé un centre de vaccination au Palais des Sports, au Kind Arena, etc., etc. Après 2022-2023, bon, en plus là c'est le 4e anniversaire de cette guerre, la guerre en Ukraine, l'invasion par Poutine de l'Ukraine, avec des conséquences humaines d'abord, puis aussi explosion des prix de l'énergie, donc notamment pour les locataires, pour les charges de chauffage, etc. Après, les changements de gouvernement, avec toutes les difficultés que ça a sur Chapelle d'Arblay, sur le train, parce que du coup, on ne sait plus qui est ministre, on ne sait plus comment on a... Bon. Non, vraiment, ça a été très, 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 très compliqué. Après, ce que je peux dire, c'est que heureusement que j'étais maire et président de la métropole, parce que pour tous ces sujets, que ce soit, par exemple, les masques, que ce soit le centre de vaccination, que ce soit gérer les services publics en temps de crise, de manière générale, évidemment qu'il vaut mieux être efficace, et c'est beaucoup plus efficace quand vous avez la ville et la métropole. Souvent, les gens ne le savent pas, parce qu'on ne sait pas bien qui fait quoi. Mais en fait, il y a 30 ans, c'était pas comme ça, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient faites par la ville, mais qui depuis ont été transférées à la métropole. L'exemple typique, c'est la voirie ou les camions poubelles. Il y a 30 ans, la voirie, c'était bien sûr la ville. Donc, vous pouviez demander à Jean Le Canuet de réparer un nid de poule. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, si je veux réparer un trou dans la route, c'est la métropole qui le fait. Voilà, donc non, il y a eu beaucoup de crises. Et le territoire a toujours tenu bon, y compris d'ailleurs en faisant attention aux finances de la ville, parce qu'on avait aussi ça. Hein, on avait hérité de finances qui étaient heureusement un peu déjà redressées grâce à Yvon Robert et Valérie Fourneyron, mais vous vous souvenez des histoires des emprunts toxiques, etc. Aujourd'hui, les finances de la ville sont très saines et j'en suis très fier aussi.
Pour regarder pas mal le conseil municipal, c'est vrai que vous revenez souvent sur les finances de la ville et ça nous permet aussi de comprendre de où on part et là où on arrive.
Ah bah c'est clair qu'on partait de très très loin. Alors, je ne veux pas jeter ou casser du sucre sur qui que ce soit. Les emprunts toxiques, il y en a eu dans plein de villes en France. Hein. Ce n'était pas que Rouen, mais bon, c'était à l'époque de M. Albertini, mais il y en a eu d'autres dans d'autres villes, encore une fois. Mais on a payé ça pendant très 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 longtemps. Et pendant très longtemps, la ville de Rouen était très endettée. Elle était endettée à près de 200 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 125, donc vous voyez l'énorme changement.
Passons maintenant au thème premier, les associations. Le monde associatif que vous connaissez bien en tant que maire et président de la métropole, j'ai vu que vous avez des propositions un peu de renouveau concernant ces 6 dernières années. Vous pouvez nous les décliner ?
Oui, bah d'abord, il y a le soutien au monde associatif, parce que le monde associatif est très riche, mais il est en pleine évolution et parfois en difficulté. Je dis qu'il est très riche parce qu'il y a beaucoup d'associations à Rouen, et ça c'est une grande chance, une grande force. Il ne faut jamais sous-estimer, je sais que dans notre société, on a tendance à oublier ça, à mal valoriser ça, mais c'est de l'engagement bénévole, c'est des gens qui, le week-end, le soir, sous la pluie, pour les clubs de sport, etc., s'occupent de gamins. C'est beaucoup plus que juste un engagement personnel, c'est un engagement solidaire dans plein de domaines, que ce soit, je l'ai dit, le sport, mais la culture, tout simplement la solidarité entre les uns et les autres, entre les générations par exemple, ou entre les quartiers. Donc c'est extrêmement important. Première chose, soutenir et sanctuariser, parce que je vois que c'est quand même très 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 mis à mal. Il y a plein d'associations qui souffrent aujourd'hui. Hein. On a vu y compris des très grosses associations, je pense à Emergence par exemple, qui a eu des grosses difficultés, qui est une grosse association de solidarité. Donc sanctuariser le budget pour les associations. Ce budget dans toute la mandature, là sur les 6 ans, alors que je vous ai dit, on a eu plein de crises, non seulement on l'a jamais baissé, mais on l'a même augmenté, puisqu'aujourd'hui il est à près de 6,5 millions, 7 millions d'euros de soutien, dont d'ailleurs 1,7 million à peu près pour les Hauts-de-Rouen, hein, pour les associations qui œuvrent sur les Hauts-de-Rouen. Donc c'est tout à fait considérable. Première chose. Deuxième chose, les locaux. Parce que c'est un vrai sujet. Alors la radio HDR le sait bien, c'est toujours difficile de trouver des locaux. Donc l'idée, c'est de créer à la fois une sorte de maison des associations où les associations puissent se rencontrer, notamment du côté de l'avenue Pasteur, dans la mairie annexe. Vous voyez où c'est, hein, sur l'avenue Pasteur.
À côté de la préfecture.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. De créer un hôtel associatif où les associations puissent louer en fait des locaux, y compris de façon temporaire quand c'est nécessaire. Parce que les sujets des locaux sont souvent des sujets difficiles, tout simplement parce que les associations n'ont pas les moyens d'acheter un local. Donc ça, c'est un point très, très important. Troisième sujet qui pour moi est extrêmement important, c'est de défendre à travers les associations des valeurs. Alors, les valeurs, c'est quoi ? Il y en a une que j'ai déjà dite, c'est la solidarité. Je voudrais insister sur la fraternité, c'est-à-dire les associations. Alors, il y en a plein, je ne voudrais pas en citer une en particulier, mais qui font qu'on retrouve la dignité humaine. Bon, allez, je vais en citer quelques-unes. Je ne sais pas, moi, la cravate solidaire, par exemple, qui permet à des personnes qui sont en recherche d'emploi, en difficulté de dignité aussi, tout simplement, de se retrouver elles-mêmes, puis aussi de retrouver un boulot. La maison des aînés, Rouen Senior, pour le lien intergénérationnel, pour faire en sorte que, parce qu'on a de plus en plus de personnes âgées, tant mieux, mais il y a beaucoup d'isolement. Et ça, vous voyez, dans la fraternité, il y a aussi rompre l'isolement. Ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Les associations qui permettent aux uns et aux autres de rencontrer des cultures. Parce qu'on voit bien qu'en ce moment, voilà, je veux pas faire de grandes phrases, mais quand même, je suis très inquiet de ça, moi. Je vois bien qu'il y a une montée de l'intolérance, du repli sur soi, que apprécier l'un l'autre, reconnaître et découvrir l'altérité, les différences qui nous enrichissent, en ce moment, c'est vraiment mis à mal. Et il y a plein d'associations qui se battent pour ça. Et donc, moi, je voudrais continuer et renforcer leur soutien.
Surtout quand il y a des baisses au niveau général, je m'explique, c'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement, quand on a des baisses au niveau budgétaire, que ce soit pour le monde associatif, pour les radios associatives, comme vous avez pu voir ces derniers moments, au moment du budget adopté par 49.3, on a vu qu'il y avait une volonté de baisser le budget. Donc on voit bien qu'il y a une attaque aussi sur le monde de la culture, sur le monde associatif, pour des questions budgétaires et non pas des questions, on va dire, démocratiques.
Oui, vous avez complètement raison et c'est une vraie inquiétude. Et moi, j'ai pas envie que ce qui se fait au niveau national soit répliqué et amplifié au niveau local, alors que malheureusement, ça pourrait être possible. Ou pire, que pour des raisons idéologiques, c'est l'extrême droite, quoi, hein, pour le dire vite. Mais en fait, c'est ça la réalité, un certain nombre de soutiens soient coupés. Je voudrais aussi insister sur une chose sur les finances, parce qu'il y a le montant, mais il y a aussi, et c'est très important, la pluriannualité. C'est-à-dire non seulement de sanctuariser le montant, mais de pouvoir dire, on ne va pas vous demander de faire un dossier tous les ans ou tous les six mois, on va signer une convention, par exemple, pour trois ans. Comme ça, l'association en question, elle a une visibilité. Ça, c'est majeur, parce que souvent, c'est quand même, ça tient sur quelques personnes, c'est quand même assez précaire, et donc c'est très important de pouvoir donner une visibilité pluriannuelle.
Et on a toujours le stress, entre guillemets, comme vous dites, si ce n'est pas pluriannuel, on a toujours le stress de se dire, est-ce que dans un an, j'aurai quand même cette subvention? Est-ce que dans un an, j'aurai toujours les moyens d'agir concrètement et de pouvoir me baser sur un budget, on va dire, provisionnel large? J'ai vu aussi que vous souhaitez aussi déléguer une personne associée au monde associatif pour pouvoir faire le dialogue entre la mairie et le monde associatif. J'ai vu aussi qu'il y avait une proposition de simplification administrative, justement, si vous pouvez répondre à...
Déjà, la pluriannualité, ça permet de simplifier, parce qu'au lieu de faire un dossier tous les six mois, vous en faites un tous les trois ans, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Parce qu'en fait, on voit aussi que certaines associations se retrouvent, et c'est pas facile, à faire des dossiers complexes, parce qu'en plus, là, on parle de la mairie, mais vous avez la métropole, le département, la région, parfois l'Europe, enfin voilà. C'est quand même à chaque fois des formats différents, des demandes différentes, des délais différents. Enfin, c'est quand même un sacré bazar. Pour quelqu'un qui fait du bénévolat, si vous avez envie de vous engager, on peut pas dire que ça donne envie. Donc première chose, simplification par la pluriannualité. Deuxième chose, la formation. Alors ça se sait pas toujours, mais ça existe déjà un peu, même beaucoup. Les services de la ville proposent des formations. Je vous donne un exemple concret. Quand vous avez une association, vous pouvez être amené à embaucher, par exemple, un jeune sur une mission temporaire ou une personne même à temps plein. Il y a des histoires de contrat de travail, il y a des histoires de droit du travail, il y a aussi des histoires de droit associatif, qui n'est pas le droit privé classique ou le droit public. Bon, on n'est pas censé être compétents tous là-dessus, hein. C'est technique, ça évolue parce qu'il y a des changements dans la loi. Donc, être formé là-dessus, je pense que c'est important. Ou sur d'autres sujets qui sont des sujets de société, la laïcité, par exemple, qui est évidemment une valeur cardinale dans notre République, et il faut que toutes les associations soient formées dessus. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est très important pour faciliter la vie, puis faire que les bénévoles des différentes associations se rencontrent. Je vous donne un exemple qui est bien connu, c'est le Forum des associations en septembre. Il y a près de 300-350 stands, hein, donc c'est énorme. Sur les quais, la rive gauche, qui a trouvé d'ailleurs son public, hein, parce que c'est vraiment super comme manifestation, il y a plein de démonstrations et tout. Mais ça permet aussi aux uns et aux autres de se rencontrer. Moi, souvent, j'ai des bénévoles qui me disent « Ah, là, à l'occasion, j'ai rencontré tel ou tel, et en fait, il a les mêmes problématiques que nous, ou il peut apporter telle ou telle compétence, etc. etc. » Et puis, quatrième point qui n'est pas des moindres, c'est le financement. Alors, j'ai parlé du financement public avec la ville ou la métropole, mais il y a aussi parfois du mécénat, soit du mécénat de compétences, c'est-à-dire des entreprises qui vont donner du matériel ou des personnels qui vont venir donner un peu de bénévolat. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la cravate solidaire, le recrutement, etc., c'est sûr que si vous travaillez dans une entreprise, dans les RH, vous pouvez amener de la compétence sur comment faire un entretien d'embauche, par exemple. Et aussi, bien sûr, du sponsoring quand c'est utile. Hein. Moi, je suis très fier qu'il y ait des entreprises de Rouen qui soutiennent des associations de Rouen.
Et pour terminer sur cette thématique, j'ai vu aussi, monsieur le maire, que vous avez une proposition des assemblées citoyennes. Si vous pouvez nous en décliner l'idée.
Alors ça, c'est plus de la démocratie locale, mais c'est lié à la vie associative, mais pas que. En fait, on est parti d'un constat. C'est qu'avant, on avait les conseils de quartier qui marchaient plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fonction du quartier, des fois, ça marchait. Souvent, ça marchait pas bien, en tout cas pas dans la durée, parce que ça tenait que sur quelques personnes, toujours un peu les mêmes, et qu'au final, ça n'était pas très représentatif. Donc, l'idée de l'assemblée de quartier, c'est de dire, on va faire par quartier une assemblée avec une partie tirée au sort, comme une convention citoyenne, parce que ça a prouvé son efficacité, pour justement avoir une meilleure représentation, par exemple, de gens qui ne s'estiment pas légitimes. Souvent, c'est les jeunes ou les femmes qui se disent, bon, ça, c'est pas pour moi. Donc déjà, une composition très différente. Et puis, cette assemblée, elle va pouvoir travailler sur ses propres propositions, bien sûr, mais aussi sur un contrat de quartier. C'est-à-dire, tout simplement, on va se dire, bon, alors, par exemple, je ne sais pas moi, à la Grand-Mare, on a un sujet sur le commerce. Qu'est-ce qu'on fait sur le commerce? On a un sujet sur la propreté. Qu'est-ce qu'on fait sur la propreté? On a un sujet sur les salles, les équipements pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? On a un sujet sur les associations locales. Comment on fait pour les aider? Et ça vous fait un plan d'action, évidemment avec la mairie, avec la métropole, et ça donne évidemment plus d'implication et d'engagement des uns avec les autres. Donc vous voyez, assemblée citoyenne et contrat de quartier.
Donc, c'est-à-dire que si les citoyens s'engagent dans cette assemblée, ça sera pris en compte. C'est-à-dire que vous, institution, vous les écouterez selon leurs propositions.
Oui, bah oui. Bon, on l'a déjà fait, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et surtout, on peut mieux le structurer, le coordonner pour qu'on sache dans chaque quartier ce qu'on a envie de faire. Je vais vous donner un exemple très concret qui résulte de ça. Le terrain de foot des Sapins. Le terrain de foot des Sapins, comment ça se passe? Au départ, il y avait un projet qui était porté à la ville et à la métropole, qui était plutôt de faire une déchetterie. C'était plutôt sur les déchets verts dans ce secteur. Et puis, comment ça se passe concrètement? Ben, il y a le club des Sapins qui vient me voir et qui me dit, ben, franchement, on a énormément de demandes, garçons et filles. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de filles aussi qui jouent au foot au club des Sapins notamment, dans d'autres clubs aussi. Et ben, on n'a pas assez de locaux et on n'a pas assez de terrain. Et c'est comme ça qu'a germé l'idée. Et ça, ça aurait très bien pu être dans un contrat de quartier pour les Hauts-de-Rouen, vous voyez. Voilà, etc. Je vous prends un autre exemple qui va arriver. La nouvelle piscine, ça y est, elle arrive. Le travaux commence maintenant.
Posez la question.
Sauf que la piscine, c'est pas que la piscine. C'est derrière, évidemment, les gamins, les personnes âgées, le sport santé, la plaine de jeux autour, les questions de stationnement. Enfin, il y a énormément de choses autour. Il y a une crèche juste à côté. Il y a les terrains de foot à côté. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est tout un ensemble. Ça, ça se travaille avec les habitants.
Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au thème de la parentalité et du logement. HDR. Le bouclier social familial monoparental. Budget et calendrier, s'il vous plaît, monsieur le maire.
Bah d'abord, le constat, c'est que, notamment sur les Hauts-de-Rouen, une famille sur deux est monoparentale, parent solo. Donc ça veut dire un papa ou une maman. 8 fois sur 10, c'est une maman quand même, hein, faut quand même le dire. Avec 1, 2, 3, 4 ou plus enfants. Concrètement, les horaires ne collent pas, les horaires de boulot, les horaires de famille, les horaires de vie perso, c'est très compliqué à gérer. Ça coûte parfois plus cher de payer une garde que ce qu'on gagne en allant bosser pendant qu'il y a la garde, donc ça n'a pas de sens, etc., etc. Donc, c'est cette idée de bouclier social, c'est-à-dire d'aller aider en priorité les familles monoparentales, donc les parents solos. Comment? Alors, il y a plusieurs sujets à l'intérieur. Calendrier tout de suite, il y a plein de choses qui peuvent se faire tout de suite. Je vais vous donner des exemples concrets. Changer les règles sur l'attribution des logements. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, alors on le fait déjà en partie, mais c'est pas suffisant et il faut pas que ce soit que Rouen Habitat d'ailleurs, hein. Il faut que ce soit les différents bailleurs, parce qu'il y a Rouen Habitat, mais il y a d'autres bailleurs aussi, pour que typiquement une maman qui bosse, qui va faire, je sais pas moi, des ménages en Ile-de-France ou qui va bosser au CHU comme aide-soignante, qui part à 5 heures du mat, si elle a pas un logement qui est approprié, c'est-à-dire adapté au nombre d'enfants, adapté aux écoles des enfants, etc., ça va être extrêmement compliqué. Donc, changer les règles d'attribution sur les logements. Premier outil concret. Deuxième outil concret, une aide financière. Parce que si vous partez, je reprends mon exemple de cette maman qui part à 5 heures du mat. Bon, si vous partez à 5 heures du mat, les enfants à 7 heures, qui est-ce qui les réveille? Qui est-ce qui leur donne le petit-déj? Qui est-ce qui les habille? Qui est-ce qui les amène à l'école? Qui est-ce qui s'assure que tout va bien? Je pourrais vous dire la même chose le soir. Qui est-ce qui fait les devoirs? Qui est-ce qui donne le bain? Qui est-ce qui fait à manger, etc. Si vous bossez et que vous rentrez à 22 heures, ça va être compliqué. Souvent, en pratique, il se passe quoi? Ben, soit c'est un voisin. Soit c'est l'aîné. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que si jamais l'aîné, il a des difficultés scolaires ou s'il a des mauvaises fréquentations ou je ne sais quoi, bah, ça peut vite devenir un vrai gros problème. Bon, comment est-ce qu'on change ça? En fait, le problème aujourd'hui, c'est que si vous partez à 5 heures, vous payez une garde, mais la garde, elle vous coûte au moins autant que ce que vous allez gagner en allant bosser à 5 heures. Donc, ça marche pas. Donc, la mairie intervient en conventionnant. Donc ça, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut travailler avec des professionnels. Donc, je ne vais pas vous dire que ça se fait en avril 2026. Mais à un an près, ça, c'est faisable. D'ici un an, d'avoir conventionné avec des professionnels, parce que ce n'est pas évident d'autoriser quelqu'un à venir chez soi à 6 heures du matin pour aller s'occuper de ses propres enfants, pour que la mairie prenne en charge la plus grosse partie du coût, pour que le coût soit extrêmement réduit pour la maman ou le papa solo, et que il y a une garantie de qualité, c'est-à-dire que la personne qui vient pour s'occuper des enfants, c'est pas n'importe qui, elle fait pas n'importe quoi, parce qu'évidemment, c'est très important. Moi, je laisserai pas n'importe qui rentrer chez moi pour s'occuper de mes enfants, on peut tout à fait le comprendre. Voilà, donc ça, c'est aide, garde d'enfants. Et puis, troisième point, réseau de parentalité. Parce que ce qu'on observe souvent, notamment pour les mamans d'ailleurs, bah, c'est qu'elles sont seules. Elles sont seules pour s'occuper des enfants pour leur vie perso, mais elles sont aussi seules face aux difficultés. Et donc, il y a des endroits, il y a des associations, mais il faut amplifier et soutenir ça, où les mamans peuvent se retrouver pour parler entre elles. C'est très important aussi.
Le centre Jeanne Armengol-Marcarayan, qui, qui fait le temps des parents.
Voilà, ça c'est un excellent exemple, absolument. Ça c'est le centre social qu'on a réouvert, qui est sur la maison du plateau, qui est sur le Châtelet. On a réouvert plusieurs centres sociaux comme ça. On en a aussi rouvert un à Saint-Sever, rive gauche. Et vous avez raison, ça permet quoi? Ça permet de se poser, d'avoir du temps pour ses enfants et d'avoir du temps pour soi. Parce que vous savez ce qui se passe souvent. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais il faut le dire parce que souvent c'est tabou. Les parents, ils culpabilisent. La maman qui voit bien que c'est compliqué parce qu'elle doit partir tôt, parce qu'elle a son boulot, parce qu'elle a la pression de son boulot, parce qu'elle a la pression de ses enfants, parce que les difficultés à l'école, etc. Elle culpabilise de ne pas arriver. C'est la charge mentale, quoi. Donc, des endroits où on peut souffler, se poser, partager avec d'autres, c'est hyper important.
Et surtout se sentir écouté et soutenu, en fait, et pas se sentir jugé à travers le regard des autres.
Exactement, vous le dites mieux que moi, c'est tout à fait ça.
J'ai un peu d'expérience dans le métier, mais ça, il ne faut pas le dire. Sur la priorité des crèches, vous souhaitez justement rajouter des places?
Oui, là, j'ai parlé effectivement des logements, mais en fait, c'est logements et crèches, parce qu'on sait aussi que pour les crèches, on a ce sujet. Alors, sur les crèches, c'est compliqué parce qu'on a une donnée nouvelle, c'est qu'on a plus d'habitants. Et comme on en a beaucoup plus d'habitants, on est même une des villes qui en accueille le plus maintenant. On est dans le top 4 hein, avec Villeurbanne, Toulouse et Montpellier. Ce n'était pas du tout le cas il y a une dizaine d'années. Hein. Donc, évidemment que comme vous avez plus d'habitants, vous avez plus d'enfants. Et vous avez donc plus de pression, de demande pour les écoles, les crèches, les centres de loisirs, etc. Et on le voit très bien. Hein. Bon, les centres sportifs aussi, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on en ait plus. Il faut qu'on ait alors soit des crèches publiques, soit des crèches d'autres types. Il y a plein de types de crèches. Hein. Il y a des crèches associatives, il y a des crèches privées. Enfin, je ne rentre pas dans les détails.
Non, c'est sûr que ça pourrait être très, très long.
Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on crée plus de places. Ça, c'est vraiment majeur aujourd'hui parce qu'on a plus de besoins.
Concernant le logement, là où c'est important, on sait que vous êtes président de Rouen Habitat, mais il n'y a pas que Rouen Habitat qui a des logements sur les quartiers QPV. Comment inciter mieux les bailleurs à respecter les locataires? Je m'explique, par exemple, concernant le chauffage, l'eau chaude, la propreté des immeubles, l'entretien des immeubles, la rénovation urbaine. Comment mieux inciter les bailleurs à mieux considérer leurs locataires?
Alors, il y a plein de réponses. C'est difficile de vous répondre d'une phrase, mais c'est...
J'ai essayé de faire une question large et vous avez le temps de répondre.
C'est très important, ce sujet-là. Bon, Rouen Habitat, c'est 8000 logements. Hein. Donc, c'est énorme. Après, vous avez d'autres bailleurs, vous avez raison. Et il faut effectivement travailler avec tous les bailleurs. D'où l'importance de la métropole. Parce que le seul levier pour travailler dans de l'interbailleur, c'est le levier métropolitain. Si vous êtes que maire, entre guillemets, certes, vous présidez Rouen Habitat, mais c'est déjà très important. Mais vous avez plein d'autres bailleurs et du coup, vous n'avez pas de prise sur eux. Alors, déjà, moi, je voudrais insister sur une chose, c'est la mixité du peuplement. Parce qu'en fait, ce que l'on constate, on ne va pas tourner autour du pot, c'est qu'il y a certains bailleurs, dont Rouen Habitat d'ailleurs, qu'il faut saluer à ce titre, mais quand même, il faut le dire, qui accueillent plus de logements, de familles dans des logements de familles qui ont des revenus très modestes, et d'autres bailleurs qui en accueillent beaucoup moins. Le résultat, c'est que vous avez même, y compris dans certaines communes, carrément pas de logements sociaux, ou très peu, ou alors du logement social, mais qui n'accueille pas le même niveau social. Donc, il faut plus de mixité. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail au niveau de la métropole. Première chose. Deuxième chose, votre question, c'était quel levier? On a un levier fiscal. C'est qu'il y a des exonérations et des dérogations pour les bailleurs sur la taxe foncière, notamment dans les QPV ou autour. Et l'idée, c'est de dire, OK, vous allez payer moins de taxes foncières, mais en contrepartie, il y a un certain nombre d'exigences. La propreté, la dératisation, la sécurité, les gardiens d'immeubles, le nettoyage des communs, etc., etc. Après, je veux être clair, hein, tout ça, ça dépend aussi du civisme et du comportement de chaque locataire, parce qu'on sait aussi qu'on a ces problèmes-là parfois. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre sur la tête des bailleurs, parce qu'il y a aussi ce sujet. Et puis, troisième point, c'est l'investissement. Parce qu'en fait, le problème qu'on a aussi, c'est que le parc il vieillit. Donc, quand on a 8000 logements, évidemment, alors on a réduit le nombre de logements qui sont les plus énergivores, qui sont les plus sales ou les plus vieux, etc. Mais il faut être honnête, il y en a aussi qui sont anciens encore et qu'il faut rénover. Et donc, c'est un gros plan, c'est pas facile à faire. Et donc, ça veut dire qu'il faut plus de moyens, notamment de rénovation thermique pour réduire les charges de chauffage ou relier au réseau de chaleur, puisqu'on a la petite bouverie à côté. Ça fait une énorme différence. Hein. Si vous êtes relié au réseau de chaleur ou si vous fonctionnez au fuel ou je ne sais quoi, ou au gaz, le jour où vous avez une explosion des prix de l'énergie, c'est pas la même. Hein. Donc, ça, c'est des choses très concrètes et qu'il faut arriver à bouger. Donc ça, c'est un plan d'investissement et de rénovation. Il y a aussi la mise en accessibilité. Il y a aussi des choses très simples, hein, mais qui ne sont pas toujours faites à ce jour. C'est par exemple des volets pour, quand il y a une canicule, faire qu'il y ait une protection extérieure et pas intérieure. Parce qu'évidemment, que s'il fait très chaud et que vous avez du voilage ou des volets intérieurs, bah, ça ne va pas vous diminuer la température dans votre logement.
Votre exemple, justement, de la mixité sociale est assez intéressant parce que quand un habitant d'Audorouan, par exemple, souhaite obtenir un appartement du côté de Luciline, où on sait qu'il y a en dehors de Rouen Habitat des logements sociaux, bah, ça peut être compliqué, en fait. Ça peut être compliqué, même s'il a les revenus pour, même s'il a les garanties pour, parce qu'on pourrait supposer qu'il vient d'Audorouan, on lui refuse l'accès.
Oui, bah, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir plus de mixité. Alors, ça se fait de plus en plus. Si vous regardez bien, si on est très précis, vous avez peut-être vu que maintenant, ça y est, il va y avoir les premiers logements sociaux à Bois-Guillaume, qu'il va y avoir les premiers logements sociaux au Ménilénard. Enfin voilà, des endroits où il n'y en avait pas du tout avant. Donc ça commence à bouger, mais c'est très long. Et comme je vous ai dit, le parc, c'est 8000. Donc le temps qu'on bouge ça, ça prend du temps. Voilà, donc il faut pousser et il faut contraindre. Mais en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour vous donner, simplement pour que chacun, vos auditeurs, puisse comprendre, comment ça se passait avant? En fait, avant, chaque commune travailler avec le bailleur qu'elle voulait. Donc, vous aviez carrément des communes qui disaient « Moi, je ne veux pas de bailleur social, je ne veux pas de logement social. » C'était le cas de Bois-Guillaume pendant des dizaines d'années. Bon, et je préfère payer des amendes plutôt que d'avoir des logements sociaux. C'était honteux, mais c'était la politique choisie par la municipalité. Heureusement, ça a changé depuis. Première chose. Et puis, deuxième chose, il y avait des habitudes avec tel ou tel bailleur. Et donc, tel ou tel locataire n'était pas pris parce que tel ou tel bailleur avait une politique de ne pas prendre tel ou tel type de locataire. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, comme on a la métropole, on dit on rassemble tout le monde et on dit priorité pour les relogements aux bailleurs qui sont dans les QPV. Donc concrètement, ce n'est d'ailleurs pas que Rouen Habitat. C'est, pour prendre un autre exemple, c'est le foyer Stéphanet, par exemple, sur Châteaublanc. Si je prends Saint-Étienne-du-Rouvray, voilà. Ou Elbeuf, avec le Puchot. Voilà. Bon, ceux-là, pourquoi prioritaire? Parce que, un, ils ont des objectifs de démolition-reconstruction. Vous avez vu, par exemple, qu'on a démoli la banane et qu'on reconstruit. Ou l'immeuble Rousseau au Châtelet. Mmh. Et deux, c'est la typologie, c'est-à-dire la nature des ménages. Et ce sont, en général, les ménages qui ont les revenus les plus faibles.
Effectivement, pour terminer sur cette thématique, on sait très bien que le renouvellement, le projet de l'ANRU est long. On dit souvent que le mandat de maire, c'est ce qui permet à celui qui l'a de voir les travaux, on va dire, proches de lui. Par exemple, à la différence du mandat de président de la République, où lui, quand il engage des actions, c'est sur le temps long. Mais le mandat de maire est beaucoup plus proche. Pensez-vous que ces 6 dernières années, tout ce que vous avez engagé va se réaliser pour les 6 années qui viennent?
Oui, ça y est, on est rentré. D'ailleurs, ça se voit dans la phase très concrète de l'ANRU. Vous le voyez, l'exemple qui est le plus visible sans doute, c'est le Châtelet en ce moment. Vous voyez l'immeuble Rousseau, il était complètement bâché parce qu'il y avait le désamiantage. Là, il commence à être débâché et détruit, le centre commercial du Châtelet. Vous voyez des choses comme ça. Vous avez vu, je l'ai dit, la banane qui a été démolie. On pourrait parler des contre-moulins, il y a plein d'exemples. Bon, vous allez voir bientôt les écoles, puisqu'il y a les deux nouvelles écoles quand même sur les Hauts-de-Rhône. Donc, c'est quand même énorme là aussi. Donc, c'est un gros programme. Mais comme vous l'avez dit, en fait, tout ça, concrètement pour les gens, ça a commencé à être visible il y a quelques mois, un an peut-être, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus. Donc en réalité, ça a pris 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études, etc. Donc pour moi, c'est une grosse frustration parce que tout le monde ne le sait pas, mais l'ANRU, c'est un programme national. Ça part d'une bonne intention, hein, sauf que c'est très lent, ça met beaucoup de temps. Et en fait, pour les gens, souvent, ils se disent on ne voit rien venir sur le terrain, quoi. Donc, l'horizon, si vous voulez, c'est 10 ans. Moi, j'ai été élu il y a 6 ans. Donc oui, dans les 4 ans qui viennent, vous voyez, vous avez commencé de le voir et ça va effectivement s'amplifier. Mais franchement, alors ça, c'est un débat national, hein, mais moi,